Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la campagne présidentielle américaine est un enjeu névralgique, le renflouement de la Poste dont les finances sont dans le rouge écarlate. En Biélorussie, la fébrilité d'Alexandre Loukachenko qui prétend encore et toujours que l'opposition est marionnettisée par des puissances étrangères. La marine turque qui va, quoi qu'il arrive, étendre ses recherches d'hydrocarbures en Méditerranée orientale. Les inquiétudes fondées des défenseurs de l'environnement après que la coque du vraquier japonais s'est brisée sur les récifs de corail de l'île Maurice. Et enfin en France, le déplacement à Saint-Dizier du ministre de l'Intérieur. Après les arrestations de 16 ressortissants d'origine tchétchène, Gérald Darmanin déclare entre autres avoir l'asile sur le territoire national ne crée pas des droits de faire le bordel. Fin de citation. Depuis quelques jours, la gauche américaine a trouvé un point de ralliement et critique à l'unisson les dernières déclarations de Donald Trump au sujet d'une institution bicentenaire. Donald Trump refuse de renflouer la Poste, lourdement endettée. Les démocrates, dont la convention s'ouvre demain, y voient une manœuvre car le président sortant estime qu'elle n'est pas en mesure d'assurer un vote par correspondance. Les précisions de New York de Loïc Loury.
En novembre prochain, les bulletins de vote postés à la dernière minute pourraient tout simplement ne pas être pris en compte pour le résultat de la présidentielle, une catastrophe démocratique en gestation. Cet avertissement, la Poste américaine l'a adressé à une quarantaine d'États visiblement inquiètes de sa propre capacité à acheminer le courrier. L'USPS, en effet, est minée par une crise structurelle, des milliards de dollars de dettes, aggravée par la pandémie et les mesures engagées par son nouveau patron proche des républicains n'inspirent guère d'optimisme. La suppression des heures supplémentaires ou de machines de tri décidées pour ramener les comptes de la Poste dans le vert n'ont fait qu'allonger d'inquiétants retards de courrier. Pour les démocrates, cette débâcle porte le nom de Donald Trump. Le président est accusé de vouloir détruire l'USPS. Il refuse de lui octroyer des aides financières et répète sans preuve que le vote par courrier est synonyme de fraude. Donald Trump s'inquiète-t-il d'un système qui favoriserait son adversaire ou souhaite-t-il préparer les consciences pour pouvoir contester une possible défaite, les motivations du président ne sont pas claires. Toujours est-il que le patron de la Maison-Blanche pourrait faire marche arrière. Ses attaques contre le service public préféré des Américains ne semblent pas trouver écho, bien au contraire, parmi son électorat.
La monarchie thaïlandaise, de nouveau brocardée dans les rues de Bangkok par 10 000 manifestants du mouvement pro-démocratie. L'arrestation par les autorités de 3 militants ces deux dernières semaines a provoqué une montée de la tension dans le pays. Relâchés sous caution, ils sont poursuivis pour une dizaine de motifs, parmi lesquels la sédition et la violation de la loi d'urgence sanitaire. Il leur a été signifié de ne plus militer, mais l'un d'entre eux, Parit Siawak, alias Penguin, dirigeant du syndicat des étudiants de Thaïlande, était présent ce dimanche à la manifestation. Une partie de l'élite biélorusse quitte le navire, des journalistes de la télévision publique, d'habitude aux ordres du pouvoir, des chercheurs et des hommes d'affaires, mais aussi un ancien ministre de la Culture, Pavel Latuko, ont rejoint les rangs de l'opposition. De là, en déduire que c'est la fin du régime. Alexandre Loukachenko a brièvement pris la parole cet après-midi devant quelques milliers de ses partisans, place de l'indépendance à Minsk, tandis que dans d'autres quartiers de la capitale, ils étaient bien plus nombreux à demander sa démission. Éric Biekela.
Visiblement très mal à l'aise, essuyant même parfois une larme, Alexandre Loukachenko a reproché aux Biélorusses de ne pas l'avoir reconnu à sa juste valeur, de ne pas avoir pris en compte ses réalisations des années 90. Il a également averti, ses soutiens, des risques d'une agression militaire des pays de l'OTAN. Discours absolument décousu, sans argumentaire. Le président sortant a juste confirmé qu'il était hors de question d'organiser une nouvelle élection présidentielle. La Lituanie, la Lettonie, la Pologne et malheureusement même notre chère Ukraine, a dit le président, tous nous ordonnent de faire de nouvelles élections. Et si nous sommes conduits à faire cela, nous partirons en vrille et nous ne nous en sortirons pas. En l'occurrence, Loukachenko a probablement parfaitement raison. Un nouveau scrutin, à peu près honnête, ne lui laisserait pas la moindre chance. Un sondage sorti des urnes, réalisé la semaine dernière par l'agence russe RIA Novosti, mais publié seulement hier, donnait Alexandre Loukachenko très largement battu dimanche dernier, avec seulement 3% des suffrages, très loin des 80% que la commission électorale lui a finalement attribué et auxquels personne ne croit. Alexandre Loukachenko a encore pu cet après-midi se rendre compte de sa popularité effective. Moins de 3000 manifestants s'étaient déplacés ce matin pour le soutenir. Ils sont depuis 14 heures plusieurs dizaines de milliers, peut-être 100 000, voire davantage à Minsk et dans le pays, tous à défiler contre lui. C'est probablement la manifestation la plus importante qu'ait jamais connue le pays.
Premier échange téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères israéliens et émiratis ce dimanche. Une ligne directe en vue de la normalisation de leurs relations, scellée dans un accord qu'il leur reste à signer. Abu Dhabi sera alors le troisième pays arabe à suivre cette voie depuis la création de l'État hébreu après l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994. La dernière notice maritime publiée par la marine turque cet après-midi est sans appel. Elle va prolonger ses recherches de gisements gaziers en Méditerranée orientale dans une zone maritime disputée, faisant fi des appels de l'Union européenne à la désescalade. Ankara et Athènes mènent depuis des mois un bras de fer sur l'exploitation des hydrocarbures découverts dans cette zone. Anne Andlauer nous appelle d'Istanbul.
Les navires de forage turcs et les navires de guerre qui les escortent ne quitteront pas l'est de la Méditerranée tant qu'un accord diplomatique n'aura pas été trouvé. C'est le message qu'Ankara envoie à la Grèce et à l'Union européenne avec cette nouvelle notice maritime. Elle les informe que le Yavuz, déployé au large de Chypre depuis plusieurs mois, mènera des recherches d'hydrocarbures au sud-ouest de l'île entre le 18 août et le 15 septembre. La Turquie élargit donc sa zone de prospection alors qu'au moins deux autres de ses navires, l'Euroutchreiss et le Barbaros Hayrettin Pasha, sondent aussi en ce moment les fonds marins de la Méditerranée orientale à la recherche de gaz naturel dans des zones revendiquées par la Grèce. La dernière notification de la marine turque est assortie d'une mise en garde. Nous déconseillons fermement de se rendre dans la zone de recherche, qui ravive les craintes que cette démonstration de force ne dégénère en accrochage gréco-turc. En substance, la Turquie fait valoir qu'en tant qu'État disposant du plus long littoral méditerranéen, elle devrait être consultée ou incluse dans tout accord relatif au partage des ressources extraites de ses fonds marins. Ankara, qui se sait isolée dans ce dossier, n'a toutefois pas plus d'intérêt que son voisin grec à ce que les tensions dégénèrent. Samedi, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait appelé au dialogue, tout en prévenant que son pays ne reculerait pas devant les menaces et les sanctions, celles que l'Union européenne pourrait bientôt imposer à la Turquie si elle poursuit ses forages jugés illégaux.
Moins de trois mois avant la présidentielle en Côte d'Ivoire, la violence l'emporte sur les joutes politiques et autres débats susceptibles d'aiguiser le libre arbitre des électeurs. Puis, les manifestations que les partis ont initiées ont été irriguées de propos outrageants, voire haineux ou à des mots d'ordre insurrectionnels. Cette semaine, plusieurs partis d'opposition avaient en effet appelé la société civile à descendre dans la rue pour dire non à un troisième mandat d'Alassane Ouattara. Des rassemblements sporadiques qui ont été perturbés par des violences en quelques jours ont dénombré au moins 5 morts, la plupart dans le centre du pays à Daoukro, où des mobilisations ont viré au conflit communautaire. À Abidjan, les précisions de notre correspondante Olivia Macadré.
Ils sont sortis ce matin, armés de pelles et de balais pour nettoyer les rues de leur ville. À Daoukro, au centre de la Côte d'Ivoire, les habitants ont battu le pavé, non plus pour manifester, mais pour nettoyer les dégâts causés par plusieurs journées de manifestations et de débordements. Cette semaine, à l'appel de plusieurs groupes de la jeunesse de l'opposition, FPI, PDCI et GPS, des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour protester contre la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. Des marches sporadiques et pacifiques qui ont pour certaines été émaillées de violences. Rien qu'à Daoukro, les autorités ont confirmé la mort d'au moins 5 personnes. Une sixième est décédée à Bonoua. Des affrontements ont éclaté entre partisans du non au troisième mandat et des soutiens du président sortant. Les forces de sécurité sont aussi accusées d'avoir dispersé les protestataires en tirant à balles réelles. Autre élément troublant, des manifestants ont fait état dans l'intérieur du pays, mais aussi à Abidjan, de la présence de jeunes voyous armés, on les appelle les microbes, arrivés en bus pour disperser les marcheurs à coups de pierre et de coups de couteau. Du côté des cadres politique, on se renvoie la responsabilité et à trois mois de l'élection présidentielle, le spectre des violences ressurgit, l'inquiétude aussi de revivre un épisode comme la guerre civile de 2010-2011 qui avait fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire.
Inquiétude d'une autre nature, inquiétude depuis que le vraquier japonais Wakashio s'est cassé en deux, trois semaines après avoir échoué sur un récif de l'île Maurice où il a déversé 1000 tonnes de fioul dans les eaux turquoises de cette destination touristique de l'océan Indien. Inquiétude car l'intervention des équipes est complexe, comme l'explique à Margot Siffer, le porte-parole de Robin des Bois, Jackie Bonnemain.
l'épave est en cours de dislocation. Il va donc être très difficile, voire impossible, de remorquer la totalité de l'épave. La partie arrière va rester enfoncée dans le lagon et le récif de corail, avec la dispersion au fil du temps de peintures toxiques, d'huile et d'autres substances tout à fait incompatibles avec la pêche artisanale qui est très active, et il va y avoir énormément de difficultés pour effacer les stigmates de cette pollution. Ce qu'on note, c'est que vu la position du bateau, il est tout à fait improbable que l'île de la Réunion soit touchée massivement par des galettes ou des boulettes de pétrole, parce que la houle et les courants font que l'essentiel du fioul atterrit dans la mangrove mauricienne, mais île Maurice, île de la Réunion, même combat, donc on va pas se réjouir du fait que l'île de la Réunion, à la suite de cette catastrophe, sera vraisemblablement épargnée. Tant mieux, mais l'essentiel est que les deux îles travaillent ensemble pour écarter ces menaces, les anticiper et y remédier une fois que l'accident est arrivé.
Jackie Bonnemain, porte-parole de l'ONG Robin des Bois. En France, le ministre de l'Intérieur en déplacement en Haute-Marne, à Saint-Dizier, ce dimanche, après l'interpellation d'un groupe d'hommes d'origine tchétchène soupçonnés de préparer une violente vengeance avec des couteaux, bâtons et un sabre. 16 arrestations et 13 personnes encore en garde à vue ce soir. Gérald Darmanin s'est rendu sur place pour s'afficher aux côtés des forces de l'ordre, un exercice de communication rodé et ponctué de termes choisis qui ne sont pas sans rappeler ceux de l'un de ses prédécesseurs qui en avait fait, Pauline Josse, une signature politique.
Alors que 3 des hommes interpellés vendredi doivent être présentés devant un juge aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur en a profité pour durcir le ton, rappelant qu'aucune communauté ne fera sa loi en France. Même si Gérald Darmanin reconnaît le bien fondé de l'asile accordé aux ressortissants tchétchènes au regard de la situation dans leur pays, il met en garde les réfugiés ou demandeurs d'asile en cause.
Avoir l'asile sur le territoire national ne crée pas des droits de mettre le bordel, de faire des règlements de compte ou d'attenter à la vie des uns et des autres. Ceux qui auraient des demandes en cours de droit d'asile et qui seraient confondus par la justice du fait d'avoir des responsabilités particulières dans ce genre d'affaires, je demanderai effectivement à mon administration de regarder avec un œil différent sans doute cette demande.
Une rhétorique difficile à admettre pour Yann Mandzi, cofondateur de l'association Utopia 56, organisation qui travaille au quotidien pour l'accueil et l'accompagnement des demandeurs d'asile. Selon lui, ce type de déclaration participe à la banalisation des discours discriminants envers l'ensemble des réfugiés.
C'est ni plus ni moins qu'un discours nationaliste qui s'installe dans les propos du ministre Darmanin et de stigmate des communautés, comme son prédécesseur Nicolas Sarkozy faisait, c'est-à-dire stigmatiser une population, tout mettre nos mots dessus. Bien sûr que notre pays n'est pas qu'un pays raciste, hein, et je dirais jamais ça, mais par contre ce racisme se développe, et avec des propos comme ça, on peut imaginer que ça continue à légitimer quelque part le regard qu'on a de ces populations, qui n'oublions pas, pour la plupart d'entre elles, fuient la guerre, la misère, et essayent simplement d'imaginer un futur. Moi, je suis pas étonné de ces déclarations. Quelque part, ça se durcit, ça se droitise. C'est pas qu'au niveau français, c'est au niveau européen et mondial. Et toujours une stigmatisation des plus faibles.
Gérald Darmanin a indiqué que parmi le groupe de personnes interpellées à Saint-Dizier, un suspect qui n'est pas tchétchène se trouvait déjà sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Il a demandé à la préfète de procéder à la reconduite de cette personne à la frontière dès la fin de la procédure judiciaire.
Merci à vous, Pauline Josse. Il est 18h13, vous écoutez Journal de France Culture. En Grèce, tous les amoureux de plongée sous-marine vont pouvoir faire quelques infidélités à Delphes ou encore Olympie, deux merveilleux classiques. Depuis hier, ils ont accès au trésor du musée archéologique sous la mer au large de l'île d'Alonissos, au nord-est du pays. Angélique Kouronis, notre correspondante, a pu assister à son inauguration quelques jours avant son ouverture.
Tout le monde est là, le préfet, les pêcheurs, les archéologues, personne ne veut louper cette inauguration spéciale d'un naufrage vieux de 2500 ans, devenu musée sous-marin. Pour l'occasion, c'est Sakis Zoulouvas, vedette du showbiz, qui plonge en apnée à plus de 20 mètres de profondeur pour couper le cordon inaugural. Comme tous les plongeurs, il est sous le charme.
C'est une expérience fantastique. Ces fonds marins sont uniques. J'espère que nous pourrons découvrir d'autres trésors sous-marins grecs prochainement.
Ce qui est extraordinaire, c'est les quelques 3 à 4 000 amphores intactes, sagement rangées sur les 4 strates empilées telles qu'elles avaient été chargées avec leur nectar il y a 25 siècles. Bien qu'il n'y ait pratiquement plus aucune trace du bateau qui les transportait, ce naufrage, appelé naufrage du Peristera, du nom de l'île la plus proche près de laquelle il a été découvert en 1985 par un pêcheur, est désormais classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. La maquette de ce naufrage est reproduite dans un musée tout près de la station de plongée pour les malvoyants et ceux et celles qui n'aiment pas trop la plongée. Il restera ouvert, si tout va bien, jusqu'à la mi-septembre.
Le temps de demain en France métropolitaine, marqué par une amélioration sur la majeure partie de l'Hexagone, malgré la persistance d'averses localement orageuses, essentiellement sur le nord. Température minimale comprise entre 17 et 21 degrés. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau à la technique et Lise Le.